Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du mardi. Alors que les mobilisations, manifestations se multiplient dans le monde pour un droit à l'avortement, pour la démocratie, pour l'égalité, comment ces nouvelles approches féministes éclairent-elles le réel? Le féminisme peut-il d'ailleurs contribuer à réinventer le pouvoir? C'est la question que se pose la géopolitologue Marie-Cécile Nave dans son essai « La démocratie féministe ». Elle sera notre invitée dans la seconde partie de l'émission. Mais d'abord, Marie-Sophie Ferdan, ses héroïnes de La Dame aux Camélias à Patti Smith. La comédienne est notre invitée. À écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr. Aujourd'hui, mardi, jour de mobilisation du secteur de la culture un peu partout en France. Bienvenue à vous, vous écoutez La Grande Table, on est ensemble jusqu'à 13h30.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Je voulais pas être une chanteuse de rock. Je voulais pas faire une carrière dans le business, dans le showbiz. C'est pas ça que je voulais. Alors c'est la dernière fois que je chante My Generation, parce que vous n'êtes plus ma génération. Moi je vous connais pas, vous me connaissez pas. Alors c'est le dernier concert. Fred le sait, moi aussi je le sais. Je suis désolée, mais c'est pas triste. C'est pas ça qui est triste. Moi, j'aime la vie. Et la vie, c'est la joie. C'est la grâce. Jimi Hendrix est mort il y a 10 ans. Brian Jones est mort il y a 9 ans. Janis Joplin, il y a 9 ans aussi. D'autres voyages m'appellent. No time to die.
Extrait de la pièce de Claudine Galéa, mise en scène par Benoît Bradel, La septième vie de Patti Smith. Au cœur de ce trio électrique, on l'a entendu, il y a vous, Marie-Sophie Ferdan, bonjour. Les au revoir à la scène de Patti Smith. Dans cet extrait, c'est elle, c'est vous qui fait le choix de se couper de son public, de se retirer. Cette coupure qui est vécue aujourd'hui par les acteurs du monde culturel comme une contrainte qui leur est opposée. Comment vous, personnellement, vous vivez ces moments de séparation avec la scène? Contraint ou choisi?
C'est très difficile. C'est très difficile de ne pas jouer, de ne pas rencontrer le public. On se rend compte que c'est pas une activité solitaire de jouer, que c'est pas une chose qui peut s'exercer seule comme d'autres arts le peuvent. On a besoin de s'adresser à quelqu'un et d'être entendu par quelqu'un. Et c'est drôle que vous ayez choisi cet extrait parce qu'il est quand même pas très joyeux, mais il raconte cette femme qui au moment le plus éclatant de sa carrière, alors qu'elle est devant 80 000 personnes à Bologne, décide d'arrêter parce qu'elle n'arrive plus à trouver le chemin pour s'adresser aux gens. Elle pense que la poésie qu'elle veut transférer, parle de Pasolini, de Rimbaud, elle n'arrivera pas à la donner parce qu'il y a trop de bruit et que les gens viennent consommer sa musique et plus écouter la jeune femme un peu inquiète qu'elle était 10 ans auparavant, quand elle rentrait dans des églises vides pour chanter ses poèmes accompagnée de son guitariste, que le chemin était trop violent entre la solitude des débuts et puis devenir une rockstar, une chose de masse où elle a perdu le sens de ce qu'elle faisait. Et c'est un peu ironique d'entendre ça aujourd'hui parce que nous on aimerait bien retrouver même pour 10, pour 20, pour 30 personnes, retrouver quelques personnes à qui parler et on peut plus.
Il y a 2 ans, quand on la recevait, Patti Smith, à l'occasion de la sortie de son livre Dévotion, elle disait « J'ai toujours écrit et je me considère plus comme une écrivaine que comme une musicienne ». C'est peut-être son grand malheur d'ailleurs, c'est que pour beaucoup elle est une rockstar en fait, Patti Smith. Et elle est associée à cette génération-là, à cette scène musicale-là, américaine, à cette époque-là. Elle se considère d'abord, avant tout, comme écrivaine, mais aussi comme poète. Elle a une passion vraiment pour la poésie. Vous, Marie-Sophie Ferdan, vous êtes toujours sentie à votre place sur une scène, ou est-ce qu'il a fallu du temps avant de la trouver, cette place-là, de vous sentir vraiment bien et vous-même là où vous êtes?
Disons que j'ai mis longtemps à trouver le chemin de la scène, puisque j'ai commencé par prendre un autre chemin, celui de la littérature, des livres, et que par hasard, ou bon, peut-être que rien n'est un hasard, un jour je me suis retrouvée sur scène à pouvoir dire ces textes que je lisais seule dans ma chambre, et ça a été comme une comme une illumination, comme une révélation, le sentiment que en fait la poésie vibre plus fort quand on est capable de la donner pour les autres, quand quelqu'un est en face de vous et peut la recevoir, et que cette pratique un peu singulière et trop solitaire se décupler quand il y avait quelqu'un pour l'entendre. Donc moi j'ai mis du temps à trouver, et je cherche encore. Je crois pas qu'on puisse arriver à un endroit et s'y sentir satisfait une fois pour toutes. C'est tout le chemin de la vie d'essayer des nouveaux endroits, et le parcours de cette femme, ce qui est, c'est drôle que vous disiez, elle est connue pour son rock et pas pour ses poèmes, parce qu'elle a commencé comme ça, et que moi je l'aime aussi pour ça, pour le chemin qu'elle fait à travers les poètes, et notamment les poètes français. On sait que quand elle avait 17 ans, elle est venue avec sa sœur à Charleville-Mézières pour se recueillir sur la tombe de Rimbaud, qu'elle continue d'honorer les poètes, et notamment les poètes français, qu'elle est allée se recueillir pour Jean Genet, ramener de la terre du bagne, qu'elle voue un culte à ces poètes qui sont plus trop célébrés partout, et qu'elle est à la fois, peut-être qu'elle est si vibrante sur scène parce que c'est pas juste du son qu'elle envoie, mais aussi un sens très puissant, très 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 mystique.
Et d'ailleurs, dans la suite de cet entretien, elle disait que pour elle, la discipline la plus importante, c'était l'écriture, mais qu'elle se considérait avant tout, sur scène, comme une performeuse. Donc que ce soit pour de la poésie, que ce soit pour déclamer, que ce soit pour chanter, elle avait inclus la performance aussi dans sa manière d'être sur scène. Hein. Ça fait partie du jeu, et ça, je trouve que c'est assez présent, non, dans ce spectacle, La septième vie de Patti Smith, mise en scène par Benoît Bradel, dans lequel vous êtes, vous, Marie-Sophie Ferdan, cette idée de performance, plus que de jeu.
Et une chose qu'elle dit qui m'a intéressée, c'est qu'à un moment, quand elle a rencontré Sam Shepard, ils ont écrit une pièce ensemble, et ils ont essayé de... En fait, ils vivaient une grande histoire d'amour, et ils ont traduit sur scène un peu cette relation chaotique et violente. Et elle a dit après, dans Just Kids, qu'elle n'avait pas aimé être actrice, parce que être actrice, il faut s'oublier, et qu'elle n'avait pas envie de s'oublier. C'est une phrase qui m'a beaucoup interrogée, parce que c'est vrai que on parle beaucoup de jouer la comédie ou de performer, comme si il y avait... je pense que c'est l'endroit de...
C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes ressorts.
Pas exactement. C'est quand on joue quelque chose, ce qu'elle veut dire, elle, et que c'est une chose qu'on peut comprendre, les acteurs, c'est qu'on avance derrière un texte, on avance derrière la pensée de quelqu'un d'autre, et on est on avance masqué, voilà, avec dans l'univers créé par quelqu'un d'autre, par un metteur en scène qui a une vision peut-être très forte de l'œuvre et qui vous demande d'être un pion, une couleur d'un immense tableau. La performance, c'est enlever les décors, enlever la lumière, enlever toutes les couches de sens ou d'interprétation qui sont sur un texte, et proposer juste une personne qui vibre à l'endroit de ce qu'elle énonce. Voilà. Et qui, donc n'avance pas masquée derrière un personnage, derrière une construction, mais qui chaque soir, propose juste d'être là à l'endroit. Bon, moi je pense qu'être actrice, c'est ça. C'est aussi, même s'il y a des décors, des masques, des contextes, c'est d'essayer d'être le plus vibrant et le plus proche de soi. Mais elle fait cette distinction, et c'est pas inintéressant de l'entendre qu'elle l'a fait.
Alors cette pièce a été créée dans le cadre d'une fiction radiophonique pour France Culture par Claudine Galéa, qui en a aussi fait un roman, Le corps plein d'un rêve, où elle raconte ce que cette icône Patti Smith a pu incarner pour elle et ce qu'on retrouve dans la fiction comme dans la pièce, ce qu'une jeune fille de 17-18 ans, une adolescente, peut projeter dans cette figure de Patti Smith. Elle dit que cette chose aussi intéressante, c'est qu'en découvrant la vie de Patti Smith, Claudine Galéa, elle a rencontré quelqu'un qui aimait effectivement Rimbaud d'un côté, mais aussi Bach comme elle, et qui avait des passions multiples pour des arts et une palette extrêmement large. Et elle a surtout été saisie par la puissance et la liberté de cette femme qui s'incarne quand même dans un corps qui est très particulier, dont vous rendez compte aussi sur scène, ce corps très androgyne, d'où le titre de son livre, Le corps plein d'un rêve, ce corps presque non-genré, comme elle le dit. C'est ça qui est fascinant aussi avec Patti Smith. Elle l'était déjà presque avant l'heure, elle avait répondu à cette question-là.
Oui, puis elle proposait un modèle nouveau pour des jeunes filles qui avaient l'habitude d'avoir des références féminines très, très sexuées, très modélisées par le regard d'un homme, avec maquillage, talons aiguilles, robes moulantes et tout ce qu'on jugeait à l'époque nécessaire pour séduire. Et Patti arrive avec, non pas, je pense, la volonté de déconstruire une image trop féministe ou apprêtée, mais simplement parce qu'elle est dans une énergie, parce qu'elle ne s'en soucie pas, d'abord qu'elle essaye d'être brute, presque brutale, dans sa façon de se présenter au monde. Elle se coupe les cheveux parce qu'elle aime Keith Richards et qu'elle essaye de lui ressembler, qu'elle prend des icônes qui ont une énergie vibrante et que, sans se demander si c'est correct par rapport à son genre et à son sexe. Elle vivait avec Robert Mapplethorpe qui lui-même explorait de manière assez aiguë sa sexualité, son homosexualité. Et c'est un monde qui explose et qui propose des choses assez intéressantes pour dans le corps plein d'un rêve. Claudine Galéa, elle met en scène cette jeune fille qui vit dans la banlieue de Marseille, qui a 16 ans, qui visiblement a failli mourir, qui n'arrive pas à trouver d'image qui pourrait représenter le chaos qui l'habite, les questions qui l'habitent, sur ce qu'elle voudrait être, son rapport à l'art et aussi son rapport à son homosexualité qu'elle questionne. Et on imagine bien le désarroi d'une jeune fille en province quand il n'y a pas de modèle, pas de référent et personne pour discuter avec soi. Et entendre cette voix qui vient de l'autre côté du monde et qui vous dit... fonce, attaque, sois qui tu es, et avec cette violence et cette absence de limites et de préjugés, c'est salvateur, c'est comme un électrochoc, et puis ça vous marque pour toute la vie, parce que ça vous donne que d'autres, la possibilité de le vivre. D'autres l'ont fait avant vous, alors vous pouvez avancer sur ces pas-là.
À défaut de pouvoir vous voir sur scène incarner dans cette pièce La septième vie de Patti Smith, ces deux personnages, Marie-Sophie Ferdan, est-ce que vous pouvez choisir entre performance ou jeu, nous lire un texte à la manière choisie pour vous? Et ce sera, je crois, une lecture d'un texte, d'une chanson? Enfin, ou alors un chant même?
Je sais pas.
Que Patti Smith a écrit pour Janis Joplin.
En réfléchissant à ce que je pouvais lire pour votre émission, il y a dans le spectacle un texte, une chanson que Patti a écrite pour Janis Joplin, qui s'appelle Work Song. Mais Janis n'aura pas le temps de la chanter parce qu'elle meurt juste avant d'une overdose au Chelsea Hotel, à l'endroit où habitait aussi Patti. Et dans le spectacle, je donnais d'abord le sens du texte. Alors, si vous voulez bien, je vais le faire. Il n'y a pas de traduction qui existe de cette chanson parce qu'elle est rarement chantée. Mais je vais vous la traduire comme on la traduit normalement. Work song. J'ai travaillé très dur pour montrer au monde de quoi j'étais capable. Et je pense que j'ai jamais rêvé que je devais le faire. Oh, comme j'aime rire quand la foule rit, quand l'amour déborde d'un théâtre ou d'une salle de concert qui est pleine. Mais oh, oh bébé, quand la foule rentre chez elle ou rentre à la maison, que je me retourne et que je me rends compte que je suis seule, je peux pas croire que je dois l'être autant, je peux pas croire que je dois te sacrifier. » I was working real hard to show the world what I could do. Oh, I guess I never dreamed I'd have to. World spin some photographs. Oh, I love to laugh when the crowd laughs, while love slips through the theater that is full. But ho, ho, baby, when the crowd goes home, and I turn in, and I realize I'm alone. I can't believe I had to. I was working real hard to show the world what I could do. Oh, I guess I never dreamed I'd have to. I'd have to. I had to sacrifice you.
Sandwalk Collective de Patti Smith, Mama Love. Voilà, intitulé la maison de Rimbaud avec Philip Glass, le compositeur. Philip Glass, c'était les mots de Patti Smith que vous avez fait résonner et adresser à Janis Joplin. Merci, Marie-Sophie Ferdan. Vous n'avez pas choisi la facilité, quand même. Chanter a cappella en direct.
Normalement, il y a Seb Martel et Thomas Fernier qui sont avec moi, qui
oui,
sont les guitaristes.
Oui, oui.
Incroyable.
Mais là, vous êtes toute seule.
Et il me manque. Vous me manquez, les gars.
Marie-Sophie Ferdan, on a pu vous voir par ailleurs dans Mes Frères de Pascal Rimbert, mise en scène par Arthur Noziciel. Vous allez bientôt prendre la direction des répétitions pour Dissection d'une chute de neige, un texte de la Suédoise Sara Stridsberg, mise en scène par Christophe Rauch sur la figure de la reine Christine, qui se jouera, si tout va bien, en mars 2021 au Théâtre du Nord. Point commun entre toutes ces héroïnes, c'est-à-dire de Patti Smith, c'est-à-dire de la Dame aux Camélias, que vous avez magnifiquement interprété précédemment, et peut-être cette nouvelle figure que vous allez retrouver, celle de la reine Christine, repensée par cette écrivaine qu'est Sara Stridsberg. Point commun, c'est l'anticonformisme à vos yeux.
C'est la liberté. C'est la volonté de se définir par sa pensée, ses émotions, et non par ce que la société pense que vous devez faire. Donc, bien sûr, ça prend la forme d'un anticonformisme, mais c'est pas une volonté de provoquer, je pense pas. C'est la volonté désespérée d'être libre et d'essayer, dans le peu de temps qui nous est donné, d'expérimenter toutes les facettes de l'existence et pas le peu qu'on voudrait qu'on traverse. Parce que dès qu'on définit pour vous un mode d'emploi de la vie, on vous empêche d'aller à l'aventure de ce que pourrait être la vie.
Et ça, ce n'est ni féminin ni masculin. On peut imaginer que c'est une quête assez universelle. C'est d'ailleurs la romancière suédoise, Sara Stridsberg, qui dit, elle disait ça il y a quelques années dans un entretien à l'occasion de la sortie de Darling River. Elle est aussi l'auteur de La Faculté des rêves, que Christophe Rauch a également mis en scène. Elle disait, la littérature est un papillon qui n'a pas de sexe. Rien qui l'horrifie plus que de lui dire qu'elle l'écrit comme une femme ou qu'elle fait une littérature féminine ou féminisme. Pour elle, l'art en général n'a ni genre, ni frontière, ni couleur de peau. il se pratique avec une forme de subjectivité, une forme de passion, mais qui ne peut pas être étiquetée.
Mais la figure qu'elle décrit, là, cette fille roi ou reine garçon, ce qui est intéressant, je trouve, qu'elle, évidemment, elle ne prend pas ce sujet par hasard, c'est qu'au XVIIe siècle, une femme de 20 ans a réussi à régner, à imposer la paix et à avoir une puissance de pensée qui a estomaqué l'Europe entière. Et des fois, on a tendance à forcément, quand on traverse aujourd'hui cette période où le féminisme trouve mille façons de s'exprimer, de rebondir, et on nous dit c'est un sujet nouveau. Et quand au XVIIe siècle, cette femme-là arrive à révolutionner le monde du pouvoir, qui n'était quand même pas une mince affaire vu la violence des guerres qui s'y menaient, elle a fait venir Descartes dans sa cour et elle l'a même elle le réveillait tous les matins à 5h pour lui donner des leçons de philosophie. Elle a fait venir des grands philosophes et des gens, des artistes du monde entier. Cette curiosité, cet appétit de connaître, c'était bien celui d'un être hors norme, et ni d'un homme ni d'une femme. Et c'était sa tragédie, c'est qu'elle n'arrivait pas à rentrer dans le moule qu'on lui prescrivait. On lui disait, il faut que vous vous mariez, puisqu'une reine se marie, obéit à un homme, et surtout enfante pour transmettre le pouvoir. Et elle a fait l'inverse, elle a renoncé au pouvoir pour aller vivre sa vie telle qu'elle l'entendait au milieu des arts et puis au milieu des femmes, parce que elle était bisexuelle et avait envie de mener sa vie à sa guise. Mais ça remonte quand même au temps de Descartes. Mmh. on a oublié tout ça. La société est
dont elle était très proche, hein, d'ailleurs. Elle aimait la compagnie des philosophes et des penseurs.
Ben hein. Oui.
Il y a un autre portrait de femme qui paraît en ce moment. C'est celui de Marie-Thérèse d'Autriche par Elisabeth Badinter. Mmh. C'est étonnant de revoir à travers l'histoire ces grandes figures qu'on a un peu marginalisées, mais ces grandes figures féminines qui vivaient aussi leur féminité d'une manière ou d'une autre, mais qui transgressaient quelque part les codes qu'on pouvait attendre d'eux sans pour autant revendiquer cela. Pour boucler la boucle, il va y avoir un Conan la barbare de Bertrand Mandico. Là, ça va être un projet assez hybride entre théâtre et cinéma dont vous allez vous aussi vous saisir. Il a choisi de féminiser ce personnage qui pourtant est débordant de alors c'est même plus de la virilité, de testostérone à ce niveau-là, Conan le barbare. Pourquoi ? À quoi joue-t-il Bertrand Mandico avec ce Conan la barbare ?
Je trouve qu'il est audacieux de reprendre... Je trouve qu'il est libre. Justement, c'est la même chose de déconstruire l'image qu'on a d'une féminité. En plus, là où il est audacieux, c'est Conan à tous les âges. Donc, on commence Conan enfant, puis 15, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et chaque tranche d'âge va être interprétée par une actrice différente pour montrer à quel point c'est complexe d'être humain. Et être une femme n'est pas moins complexe que d'être un homme. Et cette violence qu'on a en nous... Elle n'est pas genrée. Elle existe bel et bien. Et c'est, je trouve ça très intéressant de vouloir la porter à son paroxysme, même dans ce que ça peut avoir d'un peu, drôle, parce que c'est presque drôle de voir ce déferlement de sang et de muscles et de se dire, et si c'était des femmes qui avaient eu cette violence, qu'est-ce qu'on en ferait? Je suis très impatiente de le rencontrer, de travailler avec lui aussi.
À quelques jours de Noël, après le français Chassol, c'est au tour du Canadien Chili Gonzalez de nous régaler avec ses standards de Noël revisités. Le pianiste qui sera en concert demain sur Arte, une scène à moitié virtuelle dont on va vous reparler. Marie-Sophie Ferdan, la comédienne, est notre invitée. On n'est pas loin de devoir se quitter, mais on profite encore un peu de cet instant en musique. Voilà pour cette réinterprétation de Wham par Chilly Gonzalez, extrait de son nouvel album A Very Chilly Christmas sur le label Gentle Threat. Il sera donc en concert demain sur Arte Concert, sur la plateforme, un concert semi-virtuel. Lui qui se réjouissait de jouer récemment au Bataclan pour nos confrères de France Inter, ici avec Radio France, devant un public de 4 techniciens, 3 journalistes, 2 chats, 4 plantes et un barman. C'est génial, disait-il, parce que c'est déjà plus grand que de devoir jouer devant personne. Il racontait sa difficulté à vivre les live streams en disant que c'était pas du tout pareil. C'est sûr que c'est au théâtre comme sur scène pour un chanteur, Marie-Sophie Ferdan. C'est pas simple de jouer juste devant une caméra, même si on sait que de l'autre côté de l'écran, il y aura du monde. Et pourtant, les professionnels de la culture, vous tous, metteurs en scène, comédiens, techniciens, vous avez dû quand même, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, vous réadapter, apprendre à diffuser votre savoir qu'est la culture autrement. Il va y avoir aujourd'hui quand même une grande journée de mobilisation du milieu contre la fermeture prolongée des lieux de culture. Il y a aussi cette initiative parallèle de Charles Berling qui a déposé un recours référé liberté pour contester la décision du gouvernement devant le Conseil d'État de fermer les lieux de spectacle, les lieux de culture. Il était à notre micro, il pensait à ce moment-là encore que ça allait aussi fonctionner et que les théâtres allaient pouvoir rouvrir au même titre que les grandes surfaces, que les transports et évidemment que les lieux de culte. Est-ce qu'on peut vraiment faire le parallèle pour vous avec les lieux de culte d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une forme de communion qui se joue aussi au théâtre qui vous semble essentielle à préserver aujourd'hui?
Ah oui, moi je poserai pas l'ouverture des lieux de culte et l'ouverture des théâtres. Je trouve ça bien qu'on permette aux gens, quelle que soit leur religion, de trouver des endroits pour être moins seuls, pour trouver un peu de consolation dans cette période qui apporte tellement de solitude et de dépression. Et puis je me dis, si l'Église a réussi à faire rouvrir certains lieux, d'augmenter la jauge, c'est bien la première fois que l'Église sera en avance sur les acteurs. Alors peut-être que nous aussi on va réussir à faire rouvrir ces lieux, parce que c'est incompréhensible qu'on ne puisse pas permettre au lieu de la pensée, au lieu de l'émotion et de l'imaginaire d'ouvrir, et qu'on permette à des lieux d'achat de le faire. Je pense qu'un objet apporte moins de consolation qu'une pensée ou qu'un poème.
Et vous irez peut-être rappeler ça, cette importance, à la fois comme lieu de consolation et lieu de communion, que sont le théâtre, la littérature, l'imaginaire, avec d'autres, à midi, à Bastille, éventuellement, à l'appel de la CGT Spectacle, à Paris, mais des manifestations ont lieu partout en France, et notamment à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, à Toulouse et Nancy. Merci beaucoup à vous, Marie-Sophie Ferdan, d'avoir été avec nous. Je vous invite aussi à réécouter l'entretien donné par Chilly Gonzalez à notre confrère Arnaud Laporte dans Affaires culturelle.